France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 18 janvier, soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois est à la réalisation, José Bernays et Emmanuel Dupuis à la technique. Bienvenue, bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral et au plaisir de la musique. Le menu du jour, le voici. À 8h, Christophe Chassol nous fera découvrir le Mahavishnu Orchestra. À ses côtés, Léonore, jeune pianiste de 9 ans qui nous accompagne ce mois-ci. À 8h20, notre reportage, Marie Jiquel nous emmènera dans les coulisses des Petites Noces, le nouveau spectacle participatif du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin s'intéressera, lui, à Opéra Kid, un projet vocal aussi singulier qu'ambitieux de l'Opéra de Limoges. Notre invitée du jour sera Aline Sam Jiao, qui est la directrice générale de l'Auditorium de Lyon. Enfin, Rosine Bachelot nous dira tout d'Ercole Amante de Francesco Cavalli, qui sera diffusé ce soir sur France Musique. Merci donc d'être avec nous ce matin. Je vous offre un réveil tout en douceur. Les traversées baroques, ensemble dirigé par Étienne Meyer et Judith Paquier, qui sera en concert le 24 janvier prochain à 20h à l'Arsenal de Metz, au programme ce compositeur du XVIIe siècle, Caspar Förster, compositeur mais aussi un magnifique chanteur. Il a donc écrit pour les instrumentistes mais aussi pour les chanteurs des parties extrêmement virtuoses, comme ce psaume que nous écoutions à l'instant. Et pour entendre cela en concert, ce sera donc à découvrir le 24 janvier prochain à l'Arsenal de Metz. Et nous en parlions fin décembre avec Marc Feldman qui était notre invité. L'Orchestre National de Bretagne qui fête ses 30 ans cette saison. L'occasion de célébrer ces musiciens vous sera donc offerte les 23 et 24 janvier prochains à 20h au couvent des Jacobins à Rennes. Un très bel espace qui est aussi le lieu de résidence de l'Orchestre National de Bretagne, avec un programme de concert au titre évocateur, Rêverie persane. Au menu, Sergueï Prokofiev et son troisième concerto pour piano avec la pianiste Archa Kaviani qui se produira pour la première fois en France. On pourra entendre également Tchaïkovski et sa première symphonie, mais aussi une création française, une œuvre de Reza Vali, concert dirigé par Nader Abbassi. Rendez-vous donc les 23 et 24 janvier prochains au couvent des Jacobins à Rennes.
Thank you. Thank you.
l'Orchestre National de Bretagne qui fête ses 30 ans cette saison. On écoutait ici l'une des œuvres qui sera jouée les 23 et 24 janvier prochains au couvent des Jacobins à Rennes par ses musiciens, la première symphonie de Tchaïkovski. Et sachez que si vous voulez entendre les musiciens, il y a également une date de prévue au Centre culturel de l'Hermine à Sarzeau. Ce sera le dimanche 26 janvier à 16h. Chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous Carmen, l'opéra de Georges Bizet, en livre-disque, qui vient de paraître dans la collection des albums musiques des éditions Gallimard Jeunesse. La comédienne Estelle Houbier nous raconte l'histoire tragique de Carmen, cette bohémienne sulfureuse et passionnée. Le livre est illustré par Caterina Baldi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cet opéra que j'adore. Alors plantons ce matin le décor, si vous voulez bien, avec les premières pages de cette histoire.
L'histoire de Carmen se passe à Séville. Imaginez le sud de l'Espagne. La chaleur lourde, épaisse. Un après-midi d'été dans la belle ville andalouse. Devant la caserne, les soldats s'ennuient. Il regarde le va-et-vient des passants sur la place écrasée de soleil. Michaela, une jeune paysanne, s'approche d'eux. « Je cherche un brigadier, Don José. Le connaissez-vous ?» Les soldats lui répondent qu'il sera bientôt de retour. Justement, le son d'une trompette annonce l'arrivée de la garde montante. Les soldats se rangent aussitôt en ligne. Des badauds se sont rassemblés pour assister au spectacle. Et bientôt, la parade militaire traverse la place, ainsi qu'une joyeuse bande d'enfants qui s'amusent à imiter les soldats.
Le tout début de Carmen, ici en livre-disque, compté par la comédienne Estelle Houbier, qui vient de paraître dans la collection des albums musiques des éditions Gallimard Jeunesse pour découvrir, redécouvrir avec vos enfants ce magnifique opéra de Georges Bizet.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et le week-end prochain, c'est un week-end consacré à Michel Legrand qui vous sera offert à la Maison de la Radio. Une série de 3 concerts en collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. L'occasion de réentendre notamment plusieurs de ses musiques de films. Le premier concert de cette série sera d'ailleurs à entendre sur France Musique vendredi prochain en direct dès 20h. Et puis Jean-Baptiste Urbain consacrera la matinale de jeudi prochain à Michel Legrand avec autour du micro Stéphane Lerouge, Jean-Paul Rapneau et Rosalie Varda. À cette occasion, je vous offre le nouveau disque que le pianiste Hervé Sélin consacre au compositeur. Alors pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous envoyez vos coordonnées coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre. Et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Ce matin, je vous propose de deviner la suite du titre de ce film de Jacques Demy. Oh là là, qu'est-ce que c'est facile. Film de Jacques Demy dont Michel Legrand a composé la bande originale. Il s'agit des parapluies de... Alors, trois propositions. Cherbourg, Honolulu ou Bruxelles. Et si vous avez la bonne réponse, je vous invite à vous connecter sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Extrait de ce disque qui est à gagner aujourd'hui sur francemusique.fr. Hervé Selin qui nous fait redécouvrir la musique de Michel Legrand. Pour participer, il faut deviner la suite de ce titre, Les Parapluies de Cherbourg, Honolulu ou Bruxelles. Si vous avez la réponse, et ça fait beaucoup rire en tout cas mes collègues de l'autre côté du studio, eh bien rendez-vous sur francemusique.fr pour tenter votre chance. Bonne chance à tous.
Tous les dimanches, de 16h à 18h, je vous attends dans la tribune des critiques de disques sur France Musique. 2 heures de débats, de passion, de comparaisons autour de 6 versions d'un chef-d'œuvre de l'histoire de la musique. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr. À dimanche, 16h.
Bonjour, c'est Laurent Valero. Le dimanche sur France Musique, de 19h à 20h, on pose l'oreille sur un thème célèbre que je vous propose de redécouvrir dans ses plus belles versions. Surtout, ne décrochez pas. Repassez-moi le standard, le dimanche à 19h sur France Musique et francemusique.fr.
Excellent début de journée et bienvenue sur France Musique si vous nous rejoignez en ce samedi 18 janvier, il est 8h.
Chère auditrice.
Et c'est l'heure de retrouver Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Et surtout bonjour à Léonore, notre invitée du mois de janvier, Léonore, qui est pianiste, qui a 9 ans, qui a étudié d'abord au conservatoire Rachmaninov dans le 16e arrondissement à Paris, et qui suit des cours particuliers maintenant avec Elena Krohn. Léonore, on a déjà vu des dissonances avec toi, on a déjà travaillé la semaine dernière, c'était
la valse en la mineure
que tu nous avais apportée. Cette semaine, on change, Christophe, ça c'est votre proposition.
Oui, on change de forme, mais finalement c'est juste de la musique.
On est bien d'accord.
Et là, je t'ai apporté un morceau qui s'appelle Résolution, c'est un morceau d'un guitariste qui s'appelle John McLaughlin, qui se fait appeler Mahavishnu, c'est un nom indien. Alors il est très influencé par la musique indienne.
Tu connais ça, Léonore ?
Non, je ne connais pas.
C'est un morceau qui a été écrit dans les années 70, donc il y a plus de 50 ans, tu vois, et le morceau s'appelle Résolution, et il a toujours la même basse. La basse reste en La, tu vois, c'est toujours un La. Et le morceau, c'est un morceau très tendu, mais je pense qu'il peut, t'apporter des choses parce que c'est toujours la base de là, mais les accords changent par-dessus. Oui. Je vais te le jouer un petit peu, et puis après, on va essayer de voir comment toi, tu peux arriver à le jouer. D'accord ?
D'accord.
La basse, restons là. Et d'abord, on met un La bémol par-dessus. Attends, on a vu les dissonances, donc... Ce morceau est très très tendu, il a une tension. Est-ce que tu sais faire un accord ?
Oui.
Un accord de 3 sons, par exemple. Parfait. Bah, demi-sol, c'est super. D'ailleurs, on doit le jouer demi-sol. Alors, est-ce que tu sais jouer La bémol majeur ? Vas-y. Et moi, je te fais la basse, c'est La. Super. Mets la pédale, s'il te plaît.
Oui.
Vas-y, joue-moi ça. Encore. Vas-y, répète-le. On reste dans le La bémol qui est avec une basse de La. Maintenant, tu vas me jouer Si bémol par-dessus. Si bémol, Ré, Fa.
Comme ça.
Ouais, super. Reviens au La bémol, s'il te plaît.
Oui.
La bémol, Do, Mi bémol. c'est dur.
Ah oui.
Ensuite, Si bémol, Ré, Fa. Super. Et ensuite, Do majeur, vas-y.
Do majeur.
Ouais, super. Et tu sais faire Ré majeur aussi après ? Voilà, super. Donc on vient de faire ça, on vient de faire. Et la mélodie, ce dessus, c'est Do, Si, La, Ré, Ré, Do, Si, Mi, Mi, Ré, Do, Fa. Tu vois ce qui se passe ou pas alors ? Alors, ce qui est très important, moi je trouve, quand on joue des accords, c'est de regarder comment on passe d'un accord à l'autre. Et alors, quand tu vas travailler, après, tu vois, tu mets la pédale, tu fais ton La. Non, tu peux rester au piano. regarde ce que font tes doigts. C'est très important ton doigté, tu vois. Par exemple, moi, sur le premier accord, je fais 1, 2 et 4. Le pouce, le deuxième doigt et le quatrième doigt. Et après, je passe au si bémol, regarde. Donc, je fais ça. Et je regarde bien ce que font mes doigts. Quels mouvements ils font. Tu vois, et je répète ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Tu vois. Jusqu'à ce que je ne puisse, jusqu'à ce que je n'y réfléchisse même plus. Donc tu peux essayer de me faire l'enchaînement de ces deux accords ?
Oui. Alors
le La bémol. Et maintenant le Si bémol. Et regarde ce que tes doigts ils font. Si bémol Ré Fa, 1, 3 et 5. Si bémol Ré Fa. C'est presque ça. Voilà, voilà. Et alors tout le truc c'est d'écouter comment ce qui se passe entre les deux accords.
Oui.
La Do Mi, Si Ré Fa. Bon, il est un petit peu dur ce morceau. Fa. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que tant que tu restes sur cette basse, après tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des accords de trois sons. Essaye de me faire n'importe quel accord de trois sons. Change. Ensuite. Superbe. Encore. T'arrêtes pas, vas-y. Superbe. Avec des notes noires. Super. Voilà, t'as compris ce morceau qui s'appelle Résolution. En fait, il se résout. C'est un morceau qui commence avec quelque chose, avec ça, et qui finit par ça. Voilà.
À continuer à travailler, évidemment.
À continuer à travailler, ouais.
Merci à tous les deux. Merci Léonore et merci Christophe pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr, qu'on podcast et qu'on partage, bien sûr. On vous retrouve pour une dernière chronique. Ouf, il en reste une. La semaine prochaine, bien évidemment, sur France Musique. Bonne journée à tous les deux. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Thank you.
Le final de ce trio opus 120 de Gabriel Fauré, interprété par le trio Georges Sand. Et mardi prochain, le 21 janvier, ce trio Georges Sand se produira d'ailleurs dans le cadre du festival Classique Aval à Val d'Isère. En haut des pistes de ski, s'il vous plaît, à 2800 mètres d'altitude, un violon, un violoncelle électrique et un piano joué par Anis Gastaldi, qui est également directrice artistique de ce festival. Les musiciennes vous donnent donc rendez-vous sur les pistes en haut de Bellevarde à 11h. Le piano sera ensuite laissé à votre disposition jusqu'à 16h si l'envie vous prend déchaussé et nous régaler d'une sonate en haut des pistes. D'autres concerts sont prévus au chaud dans le cadre de ce festival Classique Aval qui se déroulera du 20 au 23 janvier, comme par exemple celui des pianistes Marie-Joseph Jude et Michel Béroff. Plus d'infos sur le site www.festival-classicaval.com.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Bon, n'en fais pas.
Et dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéresserons avant cela à la pédagogie, à la transmission, puisque Marie Jiquel viendra nous parler à 8h20 des Petites Noces, le nouveau spectacle participatif proposé par le Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mais j'aimerais tout d'abord vous parler de la 6e édition de La Folle Nuit qui se tient au musée de Grenoble en ce moment. Nous en parlions il y a quelques semaines avec Pascal Gaïa, programmatrice de cet événement organisé en partenariat avec la Folle Journée de Nantes. Le musée de Grenoble accueille donc des musiciens pour des concerts tout au long du week-end. Dès 11h, retrouvez notamment le pianiste Jonas Vito et la violoniste Missa Young. À 13h30, le quatuor Girard ou encore à 17h, le pianiste Selim Mazari. À 12h30 et jusqu'à 21h, dans la galerie du musée de Grenoble, vous pourrez entendre également les classes de chant et d'accompagnement du conservatoire de Grenoble, ainsi que le chœur Colla Voce. Et puis ce soir, rendez-vous pour ce grand bal de clôture, pour danser la valse viennoise dans la grande galerie. Pour plus de détails sur cette folle nuit au musée de Grenoble, dont France Musique est partenaire, rendez-vous sur www.musée-en-musique.com. Thank you. Ce sublime deuxième mouvement du trio numéro 2 de Franz Schubert, interprété par Renaud Capuçon, Gauthier Capuçon et Franck Bralet à 8h21 pour le plaisir sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Qui sonne la comtesse?
Adieu, adieu mon beau Figaro d'amour.
Courage, ma Susanna.
Et toi, prudence.
Durant ce reportage, nous allons aborder un carré amoureux bien connu de la musique classique, celui des Noces de Figaro. Intrigue amoureuse qui inclut Figaro, donc, Suzanne, le comte et la comtesse. Le théâtre des Champs-Élysées à Paris propose une adaptation raccourcie de l'œuvre de Mozart, destinée aux élèves de collège et de lycée. Et pour les plonger dans les coulisses de l'opéra, le théâtre propose aux élèves néophytes de chanter les airs depuis leur place dans le public. Découvrons grâce à vous, Marie, ce nouvel opéra participatif, Les Petites Noces.
Et c'est ce qu'il y a pour opérer la rencontre entre ces 1200 jeunes qui occuperont les rangs du théâtre et Mozart. Quoi de mieux que de rejouer les airs les plus connus du compositeur ? Des airs très connus et des airs aussi très difficiles. Les enfants vont devoir en interpréter 6 au total. Mais heureusement, ils peuvent compter sur Lucille Arnicole, leur chef de chœur.
On vous invite à mon école. À vous.
On vous invite à mon école.
Et le but, c'est de le faire parfaitement ensemble. On vous invite à mon école.
On vous invite à mon école.
Des petits jeux, on fait beaucoup de rubans vocaux, comme j'appelle ça, où avec le geste, ils vont accompagner la voix. C'est-à-dire que pour, par exemple, passer du registre de voix de poitrine, parce que les enfants qui n'ont pas l'habitude de chanter, ils parlent quasiment en chantant. Et ensuite, du coup, il s'agit de les faire passer en voix de tête, avec plein de petites sirènes, plein de sons, où justement je joue aussi avec l'acoustique, avec la réverbération. Comme ça, de plus en plus, au niveau du larynx, c'est tout bête, mais l'exercice de déplacement, de voix qui monte, etc., se fait très facilement.
Vous me faites tout ? Vous danserez, oui, vous danserez, oui. Juste ça, s'il vous plaît. 1, 2, 3.
Vous danserez, oui.
Et ces élèves peu habitués au chant peuvent aussi s'appuyer sur leurs professeurs, puisque eux aussi ont reçu une formation en amont.
Oui, comme Hélène Amato, qui est professeure de français à l'hôpital de jour Gombeau d'Arnaud à Paris. Et pour plonger ses élèves dans l'opéra de Mozart, elle leur a proposé d'analyser la liste des personnages, d'étudier leur psychologie, de savoir qui pouvait aller avec qui.
Ils sont toujours très concentrés dans les répétitions, pas du tout inhibés pour le chant, et ça les emplit de bonheur, je dirais. Bon, parce que c'est des moments qui sont partagés ensemble, et puis où on chante à l'unisson, on chante ensemble.
Pour accompagner les élèves, le Théâtre des Champs-Élysées a également créé un livret dans lequel on trouve, Marie, des astuces.
Tous les codes de l'opéra, comment on s'habille par exemple, ou est-ce que Saskia, est-ce qu'on a le droit de manger du pop-corn ?
Bien sûr.
Comme au cinéma, eh bien non, on n'a pas le droit finalement. Car ces enfants ne seront pas seulement spectateurs, ils vont devoir être très concentrés. Gilles Rico, le metteur en scène, a dû donc casser le quatrième mur.
Va créer des jeux de lumière et aussi prendre en compte cela dans la mise en scène pour faire en sorte que les chanteurs interagissent avec ce public et qu'on passe de la dimension de spectateur à celle d'acteur.
Vous pensez qu'entre les solistes et les enfants, qui aura le plus le trac ?
Les solistes. Ah oui, parce que les enfants ils ont été extrêmement bien préparés, puis ils vont se fondre aussi dans la masse. Hein. On est toujours moins timide quand on a des gens avec nous-mêmes. Et pour les solistes, c'est un spectacle qui n'est pas très long, qui fait 1h15, mais qui va demander beaucoup de concentration et aussi d'investissement physique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont.
Des cascades.
Il y a quelques cascades. Oui.
Alors on va écouter Christophe, un des élèves de l'hôpital de jour, un des 1200 participants. Est-ce que lui a le trac ? Pas trop, car en cas d'erreur, il a la technique.
J'ai appris une chose, c'est que l'erreur à ne pas faire, même si on se trompe sur quelque chose, même si on est maladroit, faut surtout pas se faire remarquer, dire par exemple « Oh zut !» tout ça. Surtout pas, on fait comme si de rien n'était.
Faire comme si de rien n'était. Merci beaucoup.
C'est
Marie,
ce qu'on fait en radio.
Bien évidemment, au quotidien. En tout cas, 12 représentations scolaires de ces petites noces, le nouvel opéra participatif du Théâtre des Champs-Élysées à Paris sont planifiées. Si vous souhaitez y assister, cela commence le lundi 27 janvier prochain. Et c'est à savourer jusqu'au 7 février. Merci beaucoup Marie.
Merci Saskia.
Et à la semaine prochaine. toute fin des Noces de Figaro de Mozart, interprétées ici dans cette version vivifiante de Theodor Courensis et son ensemble Musica Eterna. Il est 8h30. Et c'est l'heure de la chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Saskia.
Et où partons-nous ce matin?
Alors nous allons à l'Opéra de Limoges, à la découverte d'un projet absolument formidable qui s'appelle Opéra Kids. C'est formidable de voir que des maisons d'opéra font des projets aussi extraordinaires, aussi bien sur le plan musical que social. Et depuis 2012, cette maison d'opéra fait des projets tout à fait à la fois ambitieux et originaux. Et notamment, par exemple, cette année, il y a deux projets, deux créations. En 19, il y a eu deux créations, La Cavale d'Alexandros Markéas et Hellebore de Philippe Forget, dont on entend quelques notes.
N'ont pas toujours été des fleurs, puisque...
Marc-Olivier, quelles sont les spécificités du projet Opéra Kids?
Alors, ce projet Opéra Kids a différents ingrédients. Les ingrédients habituels, c'est évidemment un directeur d'opéra engagé, Alain Mercier, un directeur d'opéra qui trouve aussi des moyens importants pour réaliser ces projets dans la durée, que ce soit des partenaires publics ou privés, mais aussi, bien évidemment, le choix de l'encadrement artistique, pédagogique, des professeurs de chant, des pianistes, enfin, toute l'infrastructure qui permet de faire un travail formidable avec les enfants. Dans les spécificités, on peut mentionner tout de même la dimension sociale qui est vraiment très, très affirmée, avec un travail dans les quartiers prioritaires notamment. Et l'autre aspect qui est peut-être aussi très très marqué, c'est le lien à la création. C'est-à-dire que cette maison d'opéra est très axée sur le fait de faire travailler les enfants dans des situations d'invention, d'inventivité, aussi bien par rapport au texte que par rapport à la musique. Et ça donne, par exemple, ce qu'on va entendre dans un extrait de La Cavale d'Alexandros Markéas.
Quel rythme travaillent les enfants?
Alors, ce qui est original dans ce projet, c'est qu'ils travaillent pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immersion dans la vie de l'opéra, à la fois en tant que spectateur, mais aussi acteur. Et ils travaillent aussi sur différents projets, pas seulement sur une œuvre, mais sur tout un ensemble d'œuvres. Alors, il y a 35 mercredis par an, et des ateliers pendant les vacances scolaires et les séjours musicaux pendant les vacances, ça ne rigole pas.
Oui, on est
mais,
là pour travailler.
Ils travaillent, mais c'est passionnant pour eux, évidemment. Alors, à signaler aussi une chose qui s'inscrit dans le prolongement d'Opéra Kids, dans les jours prochains, un projet très singulier commence, c'est-à-dire Un chant, une chance. C'est un dispositif qui s'adresse à un public de jeunes adultes, c'est-à-dire des personnes éloignées de l'emploi. Et grâce au coaching vocal, l'idée est de leur redonner confiance, de les sortir de leur isolement, d'encourager le cheminement vers un projet professionnel, c'est-à-dire que la voix, comme moi, d'accrocher, de raccrocher, de retrouver une confiance en soi et un lien à la société. Condorcet n'aurait pas fait mieux.
Voilà pour ces beaux projets de l'Opéra de Limoges, Opéra Kids, que vous nous faisiez découvrir ce matin. Marc-Olivier, merci beaucoup. Et puis vous avez encore un petit cadeau pour nous.
Oui, nous sommes en tout cas très friands d'expériences réussies sur plan choral et vocal. Donc si nos auditeurs ont envie qu'on s'intéresse à leur travail, on est très heureux d'être à l'écoute.
Et c'est vrai, n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous contacter sur la page de Musique Matin sur le site francemusique.fr si vous dirigez une chorale ou des ateliers ou quoi que ce soit en lien avec le chant choral. Effectivement, on serait ravis d'en en parler à l'antenne avec Marc-Olivier.
Et on termine par un petit medley, un bout d'un petit medley Offenbach-Gershwin.
C'était la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupart, écouté sur francemusique.fr. Il est 8h35. Une ariette oubliée, signée Julien Joubert, interprétée ici par la maîtrise de Radio France et Sophie Janin. Maîtrise de Radio France qui sera en concert au Théâtre Auditorium de Poitiers tout à l'heure à 16h avec des œuvres de Benjamin Britten et Gustav Holst, notamment. Et puis, mardi prochain, à 20h, ce sera à l'Auditorium Angèle et Roger Triboulois de Bondy, avec cette fois de la musique et de la poésie française. Plus d'informations sur le site maisondelaradio.fr. Il est 8h40, c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Aline Samjiao.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes directrice de l'Auditorium Orchestre National de Lyon, Orchestre National de Lyon qui propose une centaine de concerts par an. Pour cette saison qui a déjà démarré, saison 2019-2020, vous nous invitez à aller au bout du monde, aller au concert, comme partir à la rencontre d'un animal sauvage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Alitaviao?
Vous faites la référence à notre brochure de saison.
Absolument.
Qui a un magnifique animal sauvage. Nous, notre idée, c'est que la musique, c'est avant tout de l'émotion qui est accessible vraiment à tous et qui est en fait une sorte, et ça les orchestres permanents le font très bien, une sorte d'exceptionnel, mais au quotidien. Alors c'est un paradoxe, mais que j'aime beaucoup. Et l'exceptionnel, c'est de rencontrer cet animal sauvage alors qu'on est au quotidien dans sa voiture. Je sais pas si on voit le rétroviseur de la voiture. On est en voiture et d'un coup, on tombe sur cette beauté absolument magique et sauvage.
C'est
et
l'inattendu.
Voilà, c'est ça la musique. L'inattendu, l'émotion, le majestueux, le grandiose, mais dans notre quotidien.
Cette année, un nouveau directeur musical fera ses débuts, a déjà fait ses débuts il y a quelques mois. Il s'agit du Danois Nikolaj Sneijder, qui prend la relève de Leonard Slatkin. Comment se déroule ce passage de flambeau?
En fait, il arrive officiellement qu'en septembre prochain, mais vous avez raison, il est déjà un peu présent par intermittence, puisque avant même que l'on ne le nomme directeur musical de l'Orchestre National de Lyon, on avait décidé de partir en tournée en Russie pour la première fois de notre histoire. L'Orchestre National de Lyon a une longue tradition de tournée internationale, mais voilà, États-Unis, Japon, Europe, mais jamais en Russie. Et comme il avait été premier chef invité du théâtre de Mariinsky à Saint-Pétersbourg, on avait pensé à lui pour emmener l'orchestre pendant la période de vacances de direction musicale. Et il se trouve que entre-temps, on l'a nommé directeur musical. Donc ça va être un peu son avant-première avec nous, cette tournée en Russie et les concerts à Lyon qui vont précéder en février et puis en début de saison qu'on a eu également là.
Effectivement, des beaux débuts du coup avec l'orchestre. Ce qui est intéressant aussi finalement sur cette saison, Aline Samjiao, c'est de convier trois générations de chefs. Alors je pense évidemment à Leonard Slatkin qui est encore présent cette saison, à vous le disiez, notamment avec un concert ce soir à l'Auditorium, concert Ravel Rachmaninov dont on va parler dans un instant. Il y a le nouveau directeur musical qui prendra ses fonctions officielles en septembre prochain, Nikolaj Sneijder, mais il y a aussi un jeune chef britannique, Ben Glasberg, il a 25 ans. C'était une envie de partager l'orchestre entre ces trois baguettes-là?
Non, pas vraiment. En fait, c'est, vous savez, la musique, c'est fait de rencontres et de rencontres magnifiques. C'est bien ça qui crée les étincelles qui nous font tous vibrer. C'est plus qu'on a une période quand même assez longue de recherche de directeur musical à partir du moment où Leonard Slatkin avait annoncé qu'il ne serait plus directeur musical de l'Orchestre National de Lyon. On a pris le temps. Ça a coïncidé à mon arrivée d'ailleurs à la direction générale de l'orchestre. Et pendant cette période assez fructueuse, on a fait de très très belles rencontres et notamment on était présent pour la finale du concours de Besançon de jeunes chefs d'orchestre présidé par Leonard Slatkin où le jeune Ben Glasberg, à l'époque il avait 25 ans, le britannique, a remporté haut la main l'ensemble des prix. Ça s'est fait avec l'orchestre, il a été le choix de l'orchestre, ça a été vraiment une rencontre extraordinaire et au moment de nommer un relais à Leonard Slatkin, on s'est dit finalement, Leonard Slatkin, il est déjà directeur musical honoraire, on le garde avec nous parce qu'on a fait des très belles choses et on continue à faire des très belles choses avec lui. On a Nikolaj Sneijder qui arrive, qui est cette génération intermédiaire de chef. Ce sera son premier poste de directeur musical. C'est une aventure extraordinaire à la fois pour lui et à la fois pour l'orchestre. Il a été plébiscité par les musiciens de l'orchestre à plus de 90%. Ça a été aussi mon choix personnel, le choix de la ville de Lyon. Et puis, on avait ce jeune Ben Glasberg, extrêmement talentueux. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas le laisser partir dans sa carrière de chef sans garder un lien affectif avec lui et musical. Donc on a créé pour lui le poste de chef invité associé qui n'a jamais existé à l'Orchestre National de Lyon, simplement pour pouvoir accompagner ce talent extraordinaire et puis profiter aussi de ses qualités de chef avec l'orchestre. Donc il vient effectivement en avril prochain diriger le Requiem de Forêt avec nos musiciens.
Ce sera les 9 et 10 avril exactement. Pour ce jeune et talentueux jeune chef, que je le confirme, Ben Glasberg. On va écouter un enregistrement sorti il y a peu avec l'Orchestre National de Lyon, évidemment. François Dumont, le pianiste en soliste, et Leonard Slatkin à la direction. Extrait du magnifique deuxième mouvement du concerto en sol majeur de Maurice Ravel avec François Dumont, l'Orchestre National de Lyon, Leonard Slatkin à la direction, Aline Samjiao, directrice de l'Auditorium Orchestre National de Lyon, est notre invitée ce matin. Quand on évoque Ravel, je pense évidemment aussi à ce pianiste français installé aux États-Unis depuis un petit moment, qui est artiste associé cette année.
Oui, Jean-Yves Thibaudet, notre Lyonnais d'origine, qu'on aime beaucoup, qui garde des liens forts avec l'orchestre, avec sa ville de Lyon, et puis qui a la carrière que l'on sait au niveau international, qui nous fait le plaisir de revenir comme artiste associé, c'est-à-dire qu'il est présent à 3 reprises dans notre saison. Il est déjà venu à l'automne. Il revient prochainement justement avec Nikolai Schepp-Snyder en préparation de notre tournée aux États-Unis avec 2 concerts, en préparation de notre tournée en Russie. Avec 2 concerts qui donneront ensemble à Lyon avant que l'on parte à Moscou, Saint-Pétersbourg notamment. Il viendra jouer le concerto de Grieg. Et puis il revient à la fin de la saison où il sera dirigé cette fois-là par Leonard Slatkin. Et où il jouera également en musique de chambre avec nos musiciens, parce qu'on aime bien quand nos artistes associés viennent à Lyon faire les choses un peu en famille. Lui adore ça aussi, connaît bien nos musiciens et c'est un vrai moment de bonheur pour eux et puis pour le public qui vient écouter ses concerts.
Et puis mieux connaître les musiciens de l'orchestre, évidemment, par le biais de ces concerts de musique de chambre. Pour pousser les spectateurs à franchir les portes de l'auditorium, vous proposez aussi des concerts un petit peu hors des clous. Alors, c'est un petit peu exagéré quand je dis ça, mais c'est vrai, des formats un petit peu originaux pour les spectateurs.
Depuis très très longtemps, on a nos concerts expresso sur le temps du déjeuner. Et là, on a les formats de concerts after work que l'on a imaginé la saison dernière pour le vendredi soir à la sortie du travail, venir entre amis, en famille, entre collègues, prendre un verre, puis avoir une heure de concert commenté, découverte de l'orchestre ou d'une autre forme musicale, et puis repartir boire un verre, toujours en restant chez nous, qui sont des formules de concert nouvelles pour nous. On a également les Shakespeare Classics depuis quelques temps, qui nous permettent d'avoir un artiste classique, un artiste de la sphère des musiques électroniques, et puis un artiste de musique contemporaine en partenariat avec le Centre de création musicale, le GRAM de Lyon, que l'on donne sur le toit d'une ancienne usine qui s'appelle le Sucre à Lyon, et qui est un club en fait. Et puis on a aussi 3 fois dans la saison ces grands week-ends ou ces journées vraiment où la maison est très ouverte. On a fait à l'automne une journée des tout petits pour les 0-3 ans. On fait prochainement justement avec le Centre de création musicale un week-end des musiques exploratoires où il y aura une énorme bulle transparente sur la place devant l'auditorium. Il se passera des expériences sonores. On aura différents concerts. C'est un week-end placé sous le patronage, le parrainage du romancier Yannick Enel, qui viendra faire des lectures de ses textes avec Charles Berling notamment. Donc avec une correspondance entre la musique, la littérature, la musique contemporaine, les découvertes, plein de choses à vivre, à explorer et non pas à penser forcément trop intellectuellement. Et puis on a ouvert il y a quelques temps un espace découverte où on fait des ateliers de pratique pour les tout-petits comme pour les travailleurs du quartier qui ont envie de passer un temps ensemble sous forme de un peu de team building, comme on peut appeler ça maintenant, en explorant les possibilités de la voix ou en ayant une petite conférence sur l'histoire de la musique ou une pratique d'instrument. Et donc ça, c'est 80 ateliers qu'on organise chaque saison et c'est la deuxième saison qu'on les mène.
Je pense également à ce week-end que vous organiserez en l'honneur de cette grande musicienne Anouchka Shankar. Ce sera à la fin du mois, le 31 janvier et 1er février. Évidemment, l'invitation est lancée donc à l'Auditorium de Lyon pour cette saison. On ne peut pas évoquer 2020 sans évoquer un compositeur, l'un de nos plus grands compositeurs, Beethoven. Ce sera le cas aussi à Lyon.
Ah oui, on a une pensée particulière pour lui, mais comme beaucoup d'entre nous. Et ce qu'on a essayé de faire, nous, bon, d'une part, dans son répertoire vraiment, c'est les concertos pour piano de Beethoven que l'on va donner en toute fin de saison sous la direction de Leonard Slatkin. Mais on a aussi voulu remettre Beethoven, ce grand européen qui pensait à la fraternité des peuples, au cœur vraiment de ce qu'est aujourd'hui notre vie, nos enjeux, nos défis de société, et notamment par un spectacle mis en scène par Marie-Ève Signerol. On a demandé à Marie-Ève Signerol de travailler sur la 7e symphonie de Beethoven et de donner un regard sur cette thématique qui nous tient tous très à cœur, mais qui est pas évidente à traiter, mais qui est vraiment aux portes et de la société et de nos maisons, qui est les migrations. Ce spectacle s'appelle Baby Doll, en faisant référence au film d'Elia Kazan, puisqu'il est question d'une jeune femme du même âge que celle d'Elia Kazan qui quitte son pays africain natal pour arriver à Paris. Et on suit le destin de cette femme avec son jeune enfant tout au long de son périple à travers des correspondances entre des extraits, enfin pas des extraits, les mouvements de la 7e symphonie de Beethoven et aussi avec une création musicale d'aujourd'hui qui sera confiée à l'artiste Yom et avec une performeuse sur scène et évidemment avec des vidéos comme Marie-Ève Signerol le fait très très bien. Donc c'est un rendez-vous très important pour nous.
Et ce sera les 27 et 28 mars prochains. On en reparlera évidemment sur France Musique très prochainement. Merci beaucoup Aline Samjiao d'avoir été des nôtres ce matin et d'être venue nous parler de ces nombreuses et riches activités menées par l'Orchestre National de Lyon. À très bientôt.
À bientôt.
Quelques mesures de cet Allegretto, deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. Et sachez que l'Orchestre National de Lyon
est en concert ce soir à 18h avec Leonard Slatkin à la direction. Il reste des places pour ce concert au programme Ravel, Glazounov, Rachmaninov. À noter que les trois poèmes de Stéphane Mallarmé de Ravel se retrouveront sur l'intégrale Ravel au disque que proposera prochainement l'orchestre. Et puis à noter ces autres concerts auxquels vous pouvez assister. Ils seront captés par France Musique et diffusés sur nos ondes au mois de mars et avril. Les 23 et 25 janvier, programme autour de Pulcinella. Et puis on en parlait de Jean-Yves Thibaudet, le pianiste en résidence. Ce sera le 20 février prochain. Nicolas Schneider à la direction, avec notamment le magnifique concerto en la mineur d'Edvard Grieg. On vous reparlera de ses concerts, bien sûr. Il est 8h54.
L'heure est trouvée sur le plateau. Allons-y. Effet 203.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot, comme chaque semaine. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Alors, une fois de plus, nous avons rendez-vous avec un homme qui se fait rare sur nos scènes lyriques.
Et oui, nous avons rendez-vous avec Hercule, un Hercule amoureux, ou pour mieux dire, Ercole amante. On ne peut pas dire non plus que son compositeur, Francesco Cavalli, soit très présent dans nos maisons d'opéra. Les amateurs ont savouré l'Oristeo donné à Marseille en 2016, ou le scabreux Elio Gabalo de l'Opéra de Paris en septembre-octobre 2016. Et sauf erreur de ma part, cet Hercule n'a pas été donné en France depuis la production du Châtelet en 1980, il y a presque 30 ans. Saluons donc le travail remarquable fait par l'Opéra Comique et son patron, Olivier Mantei, qui nous a donné cet Ercole amante dans une mise en scène pleine d'humour et de fantaisie de Valérie Le Sor et Christian Heck. Tiens, les mêmes qu'on peut voir en ce moment au Bouffe du Nord, dans le spectacle de la Mouche. Bouffe du Nord, toujours aussi dirigé par Olivier Mantei et qui a... Il y a eu un petit peu de bruit hier. Emmanuel Macron assistait à la représentation.
Vous y étiez, je crois.
Et j'y étais. Je suis toujours dans les bons coups, moi. Mais ce soir, ce sera l'occasion de vous installer avec France Musique et notre amie Judith Chen à 20h pour l'écouter. Cette rareté de la présence de Cavalli est d'autant plus inexplicable que son opéra, Il Giazzone, fut l'opéra italien le plus joué au XVIIe siècle en Europe. On peut dire que Cavalli est vraiment un musicien-poète, transformant la poésie en roman musical. Il est même d'une étonnante modernité, car il fut le premier à typer des mélodies spécifiques sur chaque personnage, ce qui donnera plus tard le concept de leitmotiv. Cavalli est un mélodiste superbe, raffiné. Ses œuvres n'ont aucunement l'aspect rébarbatif de certaines compositions baroques, parfois un peu lourdes. Cavalli signe vraiment le drama giocoso et la farce s'y mêle à l'émotion d'une italianité irrésistible, démontrant, s'il en était besoin, que l'on peut être burlesque sans jamais être vulgaire. Francesco Cavalli n'est pas vénitien, comme on le croit trop souvent, mais lombard. Né en 1602, il s'appelait en fait Pier Francesco Calletti Bruni, rien à voir avec une ex-première dame. Il a 14 ans quand il gagne Venise, rentre dans les chœurs de San Marco, devient organiste, puis premier organiste, avant d'occuper le poste envié de maître de chapelle à la Cappella Marciana. Il prend alors le patronyme d'un de ses protecteurs et mécènes et va créer son premier opéra en 1639, Les Nozze di Tetti e di Paleo, et très vite, Paris va le découvrir avec Egisto monté au théâtre du Petit Bourbon. Rien d'étonnant donc à ce que Mazarin, fou de musique lyrique comme on le sait, lui commande une œuvre pour le mariage de Louis XIV en 1660. Ce sera donc cet Ercole amante dont le titre est en fait une salutation non dénuée d'obséquiosité et de servilité vis-à-vis de Louis XIV. Mais en fait, Ercole amante ne fut donné que 2 ans plus tard, les travaux de la salle des machines des Tuileries ayant pris du retard. Il se dit aussi, vous savez à quel point j'aime les potins people, aurait été furieux qu'il y soit ajouté des ballets composés par Lully soi-même et qui firent le triomphe de la première, il faut dire que le roi y dansait. Mais revenons à la production de ce soir. Vous allez vous régaler. Je ne résiste pas à citer Michel Parouti dans Opéra Magazine. C'est drôle, charmant et surtout plein d'humour. Ou encore Guillaume Saint-Agne pour Forum Opéra qui nous parle de 3 heures d'enchantement. Raphaël Pichon à la tête de Pygmalion, chœur et orchestre, assure une direction enjouée, fraîche, joyeuse, qui chasse les miasmes de la morosité qui rôde. Je ne vous détaille pas le casting parfaitement homogène, sauf pour citer la basse du rôle titre Nahuel Di Piero, avec un velours vocal à vous faire chavirer, Saskia, et la déjanire de la mezzo Giuseppina Bridelli qui est époustouflante. Alors un petit peu de cet Hercule, alors à écouter.
Et la suite de cet Ercole Amante, c'est à découvrir, à écouter ce soir dans l'émission de Judith Chen à 20h sur France Musique, bien sûr. Merci beaucoup, Roselyne.
À la semaine prochaine, Saskia.
Bien évidemment, avec le programme de la soirée. Un petit mot avant de terminer sur le concours que je vous proposais ce matin. Je vous demandais de deviner la suite du titre de ce film de Jacques Demy. Allez, Roselyne, vous allez participer. Il s'agit des parapluies
de Cherbourg.
Mais bien évidemment. J'ai quand même un auditeur qui m'écrit les parapluies de Bruxelles. Je pense que c'était fort probablement pour me flatter. Cela dit, les gagnants du nouveau disque d'Hervé Célin consacré à Michel Legrand seront prévenus par email. Merci à Marie Ferdinand, à Laurent Lefrançois, à Valérie Lavalard, José Bernès, Emmanuel Dupuis. Et merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite un somptueux week-end et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.